Le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marsili.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
Après un épisode consacré à Henry Kissinger, qui a suscité beaucoup de très bons retours de votre part, et nous vous en remercions, nous nous pencherons cette semaine sur l'actualité politique et géopolitique dans un épisode qui nous fera notamment voyager à Budapest, Paris, mais aussi Athènes.
Au programme de cet épisode, donc, nous évoquerons un concept de plus en plus présent dans le débat public européen, celui d'illibéralisme, souvent employé dans l'expression « démocratie illibérale », en essayant de voir ce qui se cache derrière cette accusation ou cette revendication.
Puis nous reviendrons sur des élections passionnantes qui viennent de se dérouler en Grèce et disent beaucoup des profondes transformations que ce pays a connues depuis près de 4 ans sous la houlette de Kyriakos Mitsotakis, mais des élections qui portent aussi en elles certaines leçons pour la France.
Et nous terminerons par nos coups de cœur de la semaine qui nous amèneront à parler de deux grands personnages qui se sont battus contre les nazis, l'un héros fictif, Indiana Jones, à travers sa saga qui s'apprête à se poursuivre après la première au Festival de Cannes, et puis l'autre, un héros historique absolu, Winston Churchill, à travers le passionnant essai « Hitler et Churchill » d'Andrew Roberts. Jérémy, commençons par parler de gros mots, illibéralisme. C'est un concept qui est très en vogue. La semaine dernière, en France, alors que LR faisait des propositions sérieuse, dont nous aurons peut-être l'occasion de discuter plus tard, sur l'immigration, Le Monde titra « La tentation illibérale de la droite française ». Dans le même temps, Jean Quatremer, le célèbre correspondant à Bruxelles de Libération, évoquait à propos d'une loi sur la justice une dérive du pouvoir macronien dans l'autoritarisme orbanien. Orban, qui est justement le chantre assumé de la démocratie illibérale. Et puisqu'on reproche souvent tout et son contraire au gouvernement français, à ce pouvoir en particulier, on l'accuse aussi d'être néolibéral, puisque un discours particulièrement indigent de la réalisatrice lauréate de la Palme d'Or accusait le gouvernement français de mener une politique néolibérale. Donc beaucoup de débats autour de ces deux notions, donc on voulait en parler, et d'autant plus que toi, tu te trouvais ces derniers jours en Hongrie, dans le pays de Viktor Orban, ce pays souvent pointé du doigt comme l'exemple même de la démocratie illibérale au sein de l'Union européenne.
Oui, effectivement, j'étais à Budapest ces derniers jours. Alors, c'est une ville que j'aime beaucoup, un pays, la Hongrie, que j'aime beaucoup, au-delà de ses turpitudes politiques. Et j'avais été invité par une fondation, la fondation Otto von Habsburg, qui est une fondation qui fait un travail absolument passionnant, qui est non partisane et qui est baptisée en hommage à Otto von Habsburg, qui a été une figure très romanesque du XXe siècle, mais qui a aussi été, au sein de la Hongrie, une des grandes figures pro-européennes. C'est un ancien député européen, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le projet européen dans son ensemble, et je le mentionne parce que ça permet de faire un lien avec l'épisode de la semaine dernière. Otto von Habsburg était quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a entretenu une correspondance très riche avec Henry Kissinger. Et donc, j'avais été invité par la fondation Otto von Habsburg à délivrer un discours sur, justement, les leçons que l'Europe peut tirer de l'œuvre et de l'action d'Henry Kissinger. Et donc, c'était passionnant, et j'aime toujours saisir ces opportunités pour aussi rencontrer des personnes qui, de la société civile, du monde politique dans ces pays, qui permettent aussi d'avoir une vision un petit peu différente de celle que nos médias parfois véhiculent sur un pays comme la Hongrie ou sur tout autre pays d'ailleurs.
Oui, alors Viktor Orban, on en parle, et pourquoi on en parle particulièrement? Alors, on a déjà évoqué dans d'autres épisodes certains éléments qui montrent une dérive un peu illibérale. Mais si cette figure est intéressante, c'est parce qu'au-delà de la pratique du pouvoir, il y a chez Orban une intellectualisation d'un concept. Alors, je reviendrai plus tard sur le fait que je suis très sceptique sur la validité de ce concept, mais de fait, lui, la démocratie illibérale, il la revendique. Il y a eu un célèbre discours qui date maintenant de 2014, en juillet 2014, dans une université célèbre en Hongrie, où il affirme la nécessité de séparer les concepts de libéralisme et de démocratie. Et sa thèse, c'est que la démocratie libérale, l'équilibre des pouvoirs, est en fait une nuisance à l'intérêt premier d'un pays, en l'occurrence de son pays.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Viktor Orban, c'est un leader, effectivement, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Il est quelqu'un, on peut être évidemment en désaccord avec lui, moi je le suis sur un grand nombre de ses orientations, mais ce que l'on doit reconnaître, c'est que c'est quelqu'un qui est tout sauf bête, c'est un leader politique qui, en termes d'animal politique, a quand même su se maintenir au pouvoir maintenant depuis de nombreuses années. C'est le doyen, d'ailleurs, du Conseil européen. Et c'est quelqu'un qui permet à la Hongrie, pays de 9,7 millions d'habitants, de jouer bien au-dessus de son poids réel sur la scène européenne et même sur la scène mondiale. Viktor Orban est une figure qui, aujourd'hui, par exemple, est reconnue comme une source d'inspiration par les ultra-conservateurs américains. Il y a quand même quelque chose d'assez fou de se dire que ce petit pays au cœur de l'Europe est aujourd'hui source d'inspiration pour une grande partie du Parti républicain aux États-Unis. Pour autant, je ne pense pas qu'il faut nécessairement voir en Viktor Orban un théoricien. Je pense que c'est quelqu'un qui est un redoutable animal politique, qui sait très bien saisir des concepts qui peuvent faire résonner. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ce concept de démocratie libérale, il l'a brandi à un moment donné où son pouvoir, donc en 2014, était un petit peu fragilisé par de nombreuses affaires de corruption, par une politique économique qui ne délivrait pas nécessairement les résultats qu'il attendait. Et que pour lui, se dresser en opposition à Bruxelles, aux autres gouvernements européens, ça a toujours été une manière d'exister politiquement, de nourrir une certaine fierté nationale. Et en fait, il utilise le concept de démocratie libérale, et j'en parlais avec des personnes à Budapest qui me disaient, tout autant parce que ça lui permet de s'opposer, de se singulariser, de se distinguer, que par vraiment le fond. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que certaines personnes disaient, il parle de démocratie libérale, mais il aurait aussi pu peut-être dire qu'il était le chantre des valeurs néo-chrétiennes, parce que c'est aussi un thème sur lequel il est très présent. Orban essaie aussi de se présenter en opposition aux valeurs dites progressistes, en grand défenseur de l'anti-wokisme au niveau européen. Et donc, c'est vrai qu'il a choisi le terme de démocratie libérale, mais certains politologues ou personnes qui suivent en Hongrie Viktor Orban disent qu'il aurait pu très bien se définir tout simplement comme ultra-conservateur, réactionnaire, mais peut-être que cela aurait moins résonné sur le plan politique, tant au niveau national d'ailleurs, que sur la scène européenne.
Oui, quand je disais que c'est un théoricien, bien sûr, c'est pas Machiavel ni Tocqueville. Il y a des enjeux politiques internes et de survie politique qui étaient évidents pour lui, et tu les rappelles. Après, je crois quand même que le terme fait florès. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie illibérale, alors soit pour s'en vanter, c'est le cas d'Orban, soit pour disqualifier l'adversaire, c'est ce qu'on entend davantage dans un pays comme la France. Et là, j'ai l'impression que dans ce débat, on mélange énormément de choses. C'est-à-dire que, si je prends le point de vue d'un Orban, on part d'un présupposé presque philosophique selon lequel le libéralisme n'est plus à même de défendre les intérêts fondamentaux d'une nation. Et là, je crois que c'est un faux débat. Et Orban, à mon avis, est très habile la manière dont il joue avec, puisque le maintien des libertés dites fondamentales, cela constitue quand même l'objectif premier d'une organisation politique. Je ne vais pas tout ramener à ce texte aussi fondamental que concis et que remarquable qu'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789, mais le but de, on connaît par cœur, mais le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Donc la défense de ces libertés fait partie de la mission même de toute entreprise politique. Et il brandit l'exemple du libéralisme comme une idéologie, là où ce n'est pas vraiment le cas, c'est plus une philosophie. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je ne veux pas m'interdire, parce qu'on pourrait discuter de longues heures, mais la tension entre liberté, démocratie et ordre, elle est un grand classique des débats théoriques.
Je pense que le succès de son concept vient, comme tu l'as dit quelque part, de la confusion finalement que l'on a sur beaucoup de choses et d'objectifs. Ce que tu retrouves finalement dans la démocratie libérale d'Orban, mais aussi dans celle, par exemple, quelque part, même si elle n'est pas clamée telle quelle, de Pisch en Pologne, donc du pouvoir de Kaczynski, c'est finalement cette idée qu'il faudrait faire primer certaines libertés ou certains droits sur d'autres et que tous ne seraient pas compatibles. Donc, on ferait privilégier la sécurité économique sur parfois un certain nombre de droits. Par définition, les libertés publiques ou la, on va dire, la souveraineté ne serait pas toujours compatible avec ce qu'on appelle le pouvoir des juges, ou bien ce que certains en France décrivent comme aussi l'influence croissante exercée par les autorités administratives indépendantes, puisque ça a été sujet d'un débat récemment en France. Cette idée aussi d'une démocratie qui s'exercerait soit au niveau national versus le niveau européen, c'est aussi très présent dans la rhétorique d'Orban, c'est-à-dire que la démocratie doit se jouer au niveau national et que tout ce qui est imposé par la sphère européenne est non démocratique. Donc il y a ces oppositions où on oppose un petit peu tout. Ensuite, moi, ce qui me frappe aussi, c'est la confusion entre des modèles politiques très différents auxquels on assimile le terme démocratie libérale. Parce que le modèle de démocratie libérale qui est souvent utilisé dans la littérature et par de nombreux leaders, c'est
auquel
le modèle singapourien. C'est le modèle de Lee Kuan Yew sur lequel nous étions déjà.
Qui t'intéresse.
Alors, c'est pas, j'y tiens, parce que c'est pas du tout le régime dans lequel j'aimerais vivre, étant moi-même très attaché au libéralisme et à la démocratie, mais Le régime singapourien est un régime différent, c'est un régime effectivement non démocratique, mais je pense que pour autant il n'est pas nécessairement comparable avec ce que l'on voit en Pologne ou ce que l'on voit en Hongrie, même si ce sont des pays, et par exemple sortons de Hongrie un instant, mais la Pologne où aujourd'hui on voit effectivement sur l'état de droit des dérives extrêmement inquiétantes. Ensuite, moi je trouve que quand on importe ce concept en France, alors là on est dans un bouli-boulga intellectuel absolument terrible. Enfin, que tu aies des oppositions politiques, par exemple sur la réforme des retraites, très bien, c'est le principe même d'une démocratie, on est en accord, désaccord sur certaines orientations politiques. De là à dire que la France est aujourd'hui une démocratie illibérale, c'est, je trouve, à la fois faux intellectuellement, dangereux parce que ça veut dire qu'on met au même plan des régimes qui n'ont rien à voir, et puis ça montre aussi un manque de colonne vertébrale intellectuelle chez nos médias, chez nos élites intellectuelles. Tu mentionnais la réalisatrice qui a eu la Palme d'Or à Cannes, ça montre quand même un manque de structure intellectuelle assez consternant.
Juste un point, bon, le terme démocratie libérale ou illibérale, bon, le débat, je trouve, il peut être sans fin et illimité. Une démocratie, elle peut être plus ou moins libérale, mais fondamentalement, elle ne peut être que libérale, parce que sinon, ce n'est pas une démocratie. C'est là où le concept d'Orban est un peu fumeux. La démocratie, ce n'est pas que le vote, c'est un vote dans des conditions sereines, de libre choix et de débat serein. Donc s'il n'y a pas ça, ce n'est pas une démocratie. En France, on mélange tout et on accuse tout politique d'être, qu'il n'est pas d'accord, qu'on n'est pas d'accord avec, d'être un fasciste, un dictateur en puissance. Et ça, c'est notamment une spécialité de la rhétorique de l'extrême-gauche où tout ce qui est un peu à droite de Sandrine Rousseau serait vu comme extrême. Mais une fois qu'on a dit cela, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème tout de même. La démocratie libérale, c'est une question d'équilibre entre les forces, et cet équilibre, il peut aller dans le bon, dans le mauvais sens. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on ne va pas totalement dans le bon sens. L'état de droit, il est de moins en moins respecté et considéré. Quand je dis l'état de droit, c'est tout d'abord l'ordre constitutionnel. Or, aujourd'hui, il y aurait des milliards d'exemples évoqués, mais encore ce week-end, je disais qu'un sénateur LR souhaitait faire inscrire dans la Constitution française que la France est un pays de tradition judéo-chrétienne. Alors, bien évidemment, la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, mais je pense que cela n'a rien à voir avec la Constitution. Donc, lorsqu'on veut mettre tout et n'importe quoi dans la Constitution, et malheureusement, les derniers mois regorgent d'exemples, on rompt avec le respect pour l'état de droit constitutionnel qui est la source même de la démocratie libérale. Quand des conversations entre avocats et clients sont sur écoute, on peut se demander si on est encore dans un état de droit libéral. Quand l'administration fiscale menace de demander l'accès aux fichiers aériens, des vols, pour toujours davantage traquer les déplacements des contribuables, on peut se poser des questions. Quand le projet de loi sur la justice qui est en discussion en ce moment, sur la programmation de la justice les prochaines années, prévoit l'activation à distance des smartphones en vue d'une captation de sons et d'images, ce dont le Conseil de l'Ordre des avocats d'ailleurs s'est ému et à juste titre, et bien là aussi on peut se poser des questions. Et plus globalement, il y a la question du recul constant du poids du juge judiciaire au profit du juge administratif et du poids des institutions administratives en général. Tu as mentionné les autorités administratives indépendantes. Donc voilà, bien évidemment, la France n'est absolument pas une dictature et on en est extrêmement loin, mais par petites touches, je trouve qu'on s'éloigne des standards de la démocratie libérale traditionnelle et ça me semble dangereux, peut-être inévitable, avec les évolutions majeures technologiques, mais dangereux et à mon sens regrettable.
Alors, on l'avait dit dans des épisodes précédents, la démocratie, c'est un combat permanent. Un combat permanent, et chaque jour, il faut se battre, effectivement, pour éviter certaines dérives. Tu en as décrit certaines. Plusieurs points sur lesquels j'aimerais commenter un petit peu ce que tu as dit. D'abord, je pense qu'une des faiblesses actuelles, c'est qu'à force de vouloir surlégiférer, à force de vouloir toujours nourrir, y compris nos textes fondamentaux, notamment la Constitution, de nouveaux éléments, on rend le texte législatif et les textes fondamentaux extrêmement bavards et on leur fait perdre de leur puissance. Tu le disais tout à l'heure, une des forces de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le fait que c'est un texte extrêmement concis. Et donc, à partir de là, c'est un pilier extrêmement solide de notre démocratie. Ensuite, je pense que, effectivement, cette démocratie en France, c'est à tous les niveaux qu'on doit se battre pour elle. C'est aussi la question des médias, la question de leur indépendance, où on voit qu'il y a des efforts à faire chaque jour là-dessus, et pas d'ailleurs toujours dans la direction que certaines élites bien-pensantes indiquent. Donc je pense qu'effectivement, c'est un combat permanent. Ensuite, le gros problème que l'on a, c'est parce que une grande partie de nos élites médiatiques, politiques, etc., ont tendance tout de suite à tomber dans une inflation rhétorique en parlant de dictature, de fascisme, etc., dès qu'elles sont en désaccord avec les orientations politiques proposées par les uns ou les autres, ou de démocratie libérale, eh bien, quand il y a vraiment des problèmes réels sur le plan démocratique, sur le plan des libertés fondamentales, on n'est plus capable de les voir. Parce qu'en fait, on a enlevé leur poids et leur pertinence aux mots. Juste ensuite, si on va plutôt sur le champ économique, moi, je trouve quand même assez consternant en France que l'on parle de néolibéralisme dans un pays qui, aujourd'hui, à le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE, où il y a un niveau de protection sociale et de redistribution qui n'a aucun équivalent dans le monde, où l'État est omniprésent dans l'économie et où, par exemple, dans le domaine de la culture, on a aujourd'hui un financement de la culture, du cinéma, mais aussi des autres pans de la culture, qui n'a quasiment aucun équivalent au monde. Et que tu trouves des gens qui sont les principaux bénéficiaires de ce mécanisme, qui vivent uniquement grâce au financement public, grâce finalement aux impôts de tous les Français, parler d'un système néolibéral est à la fois affligeant, insultant à l'égard, je trouve, de l'ensemble des Français qui contribuent à ce système par leur travail. Et là, je trouve qu'il y a aussi alors, un manque de culture économique et un mélange des mots qui est absolument terrifiant.
On ne peut pas à la fois reprocher à ce gouvernement d'être néolibéral, supralibéral, gigalibéral, comme tu veux, alors que c'est totalement absurde face aux éléments économiques évidents que tu mentionnes, et en même temps de lui dire que c'est un gouvernement illibéral. Donc il faudrait savoir, il y a toujours cette tension envers la liberté, comme si, bien que ce soit le premier terme de notre devise nationale, c'est un terme que l'on galvaude et que l'on méprise facilement, ce qui donne lieu à un débat clivé, excessif, alors que les conditions ne sont pas remplies pour ça, et l'histoire récente de la France, relativement apaisée, si on prend les 50 dernières années, mériterait, je veux dire, un débat beaucoup plus serein. Et c'est là où je voulais qu'on parle aujourd'hui d'un pays qu'on apprécie, qui nous intéresse beaucoup tous les deux, qui a eu une histoire récente beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus tragique, avec des épisodes dictatoriaux, qui est la Grèce. C'est un pays dans lequel les extrêmes ont un rôle. Alors, c'est pas du tout les mêmes types forcément d'extrêmes qu'on a en France, on pourra en reparler. Mais qui est très intéressant à observer, et dans lequel finalement, le débat politique a réussi à trouver une certaine sérénité. On parle de la Grèce parce qu'il y avait des élections la semaine dernière. On a connu les résultats de cette élection législative, donc élection majeure en Grèce, la semaine dernière. Un débat relativement apaisé, dans lequel les forces, je ne vais pas dire raisonnables, parce que ce serait un peu réducteur, mais on va dire des forces de gouvernement, ont réussi à avoir les majorités, à commencer par le parti conservateur, qui s'appelle Nouvelle Démocratie, qui reste au pouvoir, même s'il n'a pas eu la majorité absolue.
Oui, la Grèce, effectivement, on s'en souvient tous, c'est un pays qui a connu une crise économique absolument terrible, moment crise de 2008-2009, puis crise qui s'est prolongée. Lorsque Alexis Tsipras, donc le leader d'extrême-gauche de Syriza, avait pris le pouvoir en 2015 et avait joué la carte anti-Bruxelles, ça avait recréé énormément d'instabilité en Grèce, ça avait replongé la Grèce dans une crise économique absolument terrible. Et en 2019, le parti de centre-droit, donc Nouvelle Démocratie, est arrivé au pouvoir avec à sa tête un homme, Kyriakos Mitsotakis, qui est depuis le Premier ministre et a remporté effectivement les dernières élections la semaine dernière de manière triomphale, puisqu'il a réuni 40,8% des voix, là où Tsipras et Syriza ont recueilli 20% des voix, et le parti socialiste PASOK, 11,5% des voix. Peut-être juste donner un petit peu de contexte à tout cela. Kyriakos Mitsotakis, c'est quelqu'un qui vient des grandes dynasties politiques grecques. Effectivement, la vie politique grecque au XXe siècle a été marquée par des grandes dynasties. Les Papandréou ont été la grande famille socialiste, les Karamanlis ont été la grande famille de droite, et ce sont deux familles qui ont gouverné alternativement le pays pendant 32 ans au cours des 53 dernières années. Mitsotakis lui-même, son père a été Premier ministre entre 1990 et 1993, et par son père, un de ses aïeux était Venizelos, qui a été le Premier ministre à de nombreuses reprises entre 1910 et 1933 de la Grèce, et vraiment est vu comme le modernisateur du pays. Pour autant, Mitsotakis, sa force, c'est que malgré cet héritage, il est arrivé à incarner une forme de modernité. C'est quelqu'un qui, d'abord, a étudié aux États-Unis. Il a étudié à Stanford et Harvard. Il a commencé sa carrière dans le privé. Ça a été un consultant chez McKinsey. Alors, je sais qu'en France, aujourd'hui, c'est une firme qui est très mal vue, mais en Grèce, ça l'est peut-être un peu moins. Et surtout, il incarne l'aile extrêmement pro-européenne, libérale, pour reprendre ce terme, de la droite grecque. Et son tour de force, d'abord, quand il a pris la tête du parti en 2016, tout en assumant cet ancrage pro-européen et libéral, il a complètement affaibli l'extrême droite. On se souvient qu'à l'époque, Obdoré, le parti antisémite d'extrême droite au relent néo-nazi, faisait des scores assez élevés en Grèce. Il a tué l'extrême droite. Et puis, il est arrivé, par sa compétence, par une politique économique rigoureuse, par des réformes structurelles, à recréer un sentiment de confiance en Grèce. Et ce qui est aujourd'hui assez extraordinaire, c'est que la Grèce, qui était ce pays qui allait si mal, alors n'est pas sortie complètement de la situation, mais l'année dernière, c'est quand même un pays qui a baissé son endettement public de 23%. 23%, ça fait quand même rêver en France. La moyenne européenne était de 4%. En 2025, on estime que le taux d'endettement de la Grèce sera de 140%, c'est-à-dire le niveau de l'Italie. Le spread avec les taux allemands qui était de 11-12 points à un certain moment et aujourd'hui d'à peu près 1 point avec l'Allemagne. Il y a une croissance qui était de 8% en 2021, 6% en 2022, c'est la plus élevée de la zone euro. C'est un pays qui, alors, a effectivement toujours des problèmes structurels très importants. Ses services publics, comme l'ont montré notamment la catastrophe ferroviaire de Tempe qui a fait 38 morts en mars, ont toujours des problèmes considérables. Mais c'est un pays qui réattire à nouveau les investisseurs étrangers. Pour la première fois depuis 20 ans, le pays a attiré énormément d'investissements étrangers l'année dernière. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que Mitsotakis est arrivé à recréer de l'espoir en Grèce par une politique compétente. Et finalement, les Grecs, lui, en sont reconnaissants.
Ce qui veut dire que, si je fais un raccourci un peu rapide, mais tout de même, que la droite, lorsqu'elle s'assume véritablement, peut avoir des résultats, non seulement électoraux, mais en termes d'administration du pays, et puis en termes politiques, puisqu'elle a détruit l'extrême droite. C'est un point, je pense, qu'il faut s'attarder 2 secondes là-dessus. Les extrêmes en Grèce, étant donné l'histoire contemporaine du pays, on va dire sur les 50 dernières années, ce ne sont pas forcément la même chose que les extrêmes en France. Obdoré, tu l'as dit, c'est un parti qui était quasiment néo-nazi et qui était nostalgique d'une certaine époque, des colonels, etc., qui fut d'ailleurs une ruine pour la Grèce à tout point de vue, intérieure comme géopolitique, avec notamment l'épisode de Chypre. Quant à l'extrême gauche, elle est beaucoup plus importante culturellement aussi, politiquement elle a un poids. Il y a un quartier que j'avais visité à Athènes, Exarchéia, qui est un peu le quartier anarchiste. C'est un quartier qui est intéressant parce que on y va forcément lorsqu'on veut visiter Athènes, parce que c'est là dans lequel il y a un musée très important, celui d'archéologie. Et il se trouve que le hasard avait fait que j'avais été autour du 17 novembre, qui est une journée de célébration, de commémoration envers des répressions très dures de l'armée envers les étudiants. Donc c'est toujours une fête un peu anarchiste. Tu vois le poids culturel. Alors sur un quartier, bien sûr, un quartier d'Athènes, c'est pas la Grèce comme un quartier de Paris, ce n'est pas la France. Mais tu vois le poids politique beaucoup plus fort de cette extrême gauche-là. Tous les éléments seraient réunis, extrême gauche forte, extrême droite forte, pour avoir un climat politique extrêmement tendu. D'autres élections suivront, parce que sans rentrer dans la mécanique électorale, il y a une réforme électorale qui est rentrée cette année en vigueur, et donc il faudra qu'il y ait comme une espèce de second tour pour que le parti de droite ait vraiment la majorité absolue, ce qu'il mérite, si j'ose dire, étant donné sa forte majorité dans les urnes. Donc il y a d'autres petits mécanismes qui lui permettront d'avoir cette majorité absolue. Il y aura un second tour, une sorte de second tour de nouvelle élection nécessaire pour cela. Mais voilà, malgré ce contexte culturel très tendu, le débat s'est fait au profit des forces de gouvernement et en l'occurrence du centre droit.
Tout à fait. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est effectivement, comme tu l'as dit, quelqu'un qui a, tout en assumant complètement le fait d'être de droite, Mitsotakis, n'en a pas pour autant, n'est pas tombé dans une droite réactionnaire. C'est quelqu'un qui est vu comme un modernisateur sur le plan économique, très libéral sur le plan également sociétal. Il fait évoluer la société grecque sur un certain nombre de questions, notamment sur la question, par exemple, du mariage homosexuel. C'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à faire appel à des talents extérieurs, soit venus du privé, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du plan de relance post-Covid, l'Union européenne a alloué 30 milliards d'euros de fonds à la Grèce, ce qui, à l'échelle de l'économie grecque, est énorme pour la Grèce. Eh bien, ce que Mitsotakis a fait, c'est qu'il a demandé à un prix Nobel d'économie, Christopher Pissarides, qui est un prix Nobel d'économie qui a la double nationalité britannique et chypriote, de mener la task force qui serait en charge de voir comment l'argent serait dépensé, pour que ce soit fait de manière très pertinente, sans problème de corruption, etc. Il s'avère que la Commission européenne a travaillé main dans la main avec le gouvernement grec là-dessus, et la Commission européenne considère que la Grèce est le modèle absolu dans la manière dont ce fonds est en train d'être distribué, puisque l'allocation des fonds aura lieu jusqu'en 2026. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, l'électorat grec lui en est reconnaissant, et bien au-delà de l'électorat traditionnel de la droite. Pour autant, ce qui était aussi, je trouve, frappant durant la campagne électorale, et c'est là où tu t'aperçois que, on va dire, l'inflation rhétorique n'est pas le propre de la France, c'est que ça n'empêchait pas les commentateurs de considérer que, et donc beaucoup appartiennent à des médias plutôt de gauche en Grèce, que Mitsotakis était finalement une sorte de Viktor Orban, et que s'il était réélu pour un second mandat, il deviendrait un Erdogan, ce qui évidemment en Grèce est vu comme l'insulte absolue du fait des rivalités historiques entre la Grèce et la Turquie. Mais malgré tout, et alors ça ne veut pas dire du tout que sa gestion est exemplaire à tout niveau, hein. Il y a eu un certain nombre de scandales dans lesquels il a été mêlé, il y a un certain nombre de problèmes incontestables, et d'ailleurs lui-même serait le premier à reconnaître que beaucoup plus de réformes doivent être menées sur le plan notamment des services publics. Mais malgré tout, il a assumé qui il était, il a eu cette réélection triomphale, et puis dernier point, c'est qu'aujourd'hui Mitsotakis, c'est une figure extrêmement influente à Bruxelles parce que depuis le départ de Merkel de la chancellerie à Berlin, il n'y a plus de grands États membres de centre-droit qui sont au pouvoir. Et donc, Mitsotakis, de fait, est probablement le leader de centre-droit et donc rattaché au PPE le plus influent à Bruxelles. Et ça lui donne un poids de plus en plus important à la table du Conseil européen.
Bon, on ne sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais je considère quand même Giorgia Meloni comme de centre-droit, étant donné sa majorité. Mais oui, tu as raison.
Mais elle n'est pas au PPE.
Non, tout à fait, mais elle envisage peut-être d'y aller. Elle envisage, tu vois, on verra les élections la prochaine fois, les européennes, mais des tractations sont en cours pour que justement, là où elle faisait partie, sous son parti Fratelli d'Italia, faisait partie d'un conglomérat un peu souverainiste. D'ailleurs, à l'époque, c'est dans cette organisation-là qu'il y avait également le parti conservateur britannique. Je parle du conservateur, je ne parle pas de UKIP ni rien. Là, aujourd'hui, elle a bien compris que si elle veut vraiment peser au niveau européen, il serait préférable probablement pour sa force politique de rejoindre le PPE. Donc oui, pour l'instant, je suis bien d'accord, c'est le Premier ministre grec qui est la figure du PPE, mais ça pourrait un peu changer, et je pense que ce serait souhaitable pour l'Italie que ça change. La Grèce est quand même assez admirable dans son rebond, hein, parce qu'il y a eu la crise économique, il y a eu une attitude aujourd'hui de la relation avec l'Europe extrêmement apaisée, mais à l'époque, il y a eu notamment de la part du gouvernement allemand quelques maladresses quand même assez énormes qui ont été faites. Il aurait pu avoir un sentiment très vif, étant donné les propos un peu humiliants qui ont parfois été tenus. Et il y a, n'oublions pas, une situation géopolitique aux frontières de la Grèce qui est compliquée. Alors, oublions même le problème de Chypre qui date de plusieurs décennies, mais étant donné la rhétorique assez outrancière d'Erdogan, qui en plus vient d'être réélu, je vais pas dire sans problème, mais il a quand même été réélu, il y aurait quand même toutes les conditions pour que la Grèce parte dans des directions, on va dire, beaucoup moins libérales, et or ce n'est pas le cas, donc c'est quand même assez remarquable.
Oui, tout à fait, et puis tu mentionnais la situation géopolitique, la Grèce a fait le choix de bâtir une alliance, un partenariat de défense avec la France, notamment par des commandes de frégates qui sont absolument essentielles pour nos chantiers navals à l'Orient, et aussi un article dans cet accord de défense qui est une clause d'assistance mutuelle, donc qui renforce vraiment les liens entre Paris et Athènes. Donc tu l'as dit, effectivement, c'est un pays alors qui continue d'avoir des problèmes très forts, puisqu'il faut quand même le souligner, c'est un pays qui n'a pas encore retrouvé le niveau de richesse qu'il avait pré-crise de 2008. Les Grecs sont encore, le salaire est encore plus bas en moyenne qu'il n'était avant 2008, donc ça montre aussi, quand tu perds ta souveraineté budgétaire, quand tu es confronté à une crise de la dette publique, combien les conséquences sont longues. Et ça aussi, pour nous Français, c'est une leçon qu'on devrait avoir un peu plus à l'esprit, parce que ça rappelle aussi combien ces crises sont profondes et combien il est dur d'en sortir, y compris dans le temps long. Mais pour autant, comme tu l'as dit, c'est un pays qui a fait des efforts absolument extraordinaires et dont on devrait, je trouve, plus parler.
Et puis, il faut regarder la Grèce, puisque à l'allure où avance notre situation des finances publiques, peut-être que bientôt, ce sera un best case à observer, en tout cas avec des enseignements à tirer. Espérons qu'on n'aille pas jusque-là, et puis il est quand même peu probable qu'on arrive jusque-là, mais gardons tout de même ça dans un coin de notre tête. Jérémy, c'est le moment de conclure notre discussion hebdomadaire avec nos coups de cœur, qui vont être un peu reliés cette semaine avec un rapport des forces de la liberté face aux forces maléfiques du nazisme. Et toi, tu voulais parler d'un héros fictif qu'on aime beaucoup, et toi particulièrement, Indiana Jones.
Alors, changeons de cadre. Notre discussion nous a amené entre Budapest, Varsovie, Athènes, Paris. Allons sur une plage d'Hawaï en 1977. Et sur cette plage se trouve George Lucas, donc le réalisateur de La Guerre des Étoiles. Et le rejoint sur cette plage Steven Spielberg, qui est un de ses grands amis, qui à l'époque est connu pour avoir notamment été le réalisateur des Dents de la Mer. En fait, George Lucas s'est retiré à Hawaï parce qu'il attend avec beaucoup d'anxiété de savoir comment va être reçue par la critique, par les spectateurs, La Guerre des Étoiles. Et donc, pendant quelques jours, quelques semaines, ils attendent cela. Et puis, La Guerre des Étoiles est un succès. Et à ce moment-là, George Lucas et Steven Spielberg décident d'arrêter de s'inquiéter pour La Guerre des Étoiles. Et George Lucas dit, mais toi, Steven, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Quel est ton nouveau projet? Et Spielberg dit, moi, j'aimerais faire un film qui soit un peu une sorte de James Bond. Et George Lucas dit, mais en fait, j'ai beaucoup mieux à te proposer. J'ai l'histoire d'un archéologue dans les années 30. Il s'appellerait Indiana Smith. Ça serait un petit peu sous l'influence de ce qu'on appelait les serials, c'est-à-dire ces films un peu romans feuilletons, Avatar pour cinéma, des romans feuilletons qui étaient les ancêtres de la série télé dans les années 50. Et il faut qu'on développe ce concept. Et finalement, Steven Spielberg, qui avait beaucoup d'admiration pour son ami George Lucas, achète l'idée. Les deux hommes échangent pendant une semaine, et ça va être la genèse d'Indiana Jones. Alors, le documentaire qui passe en ce moment sur Arte et qui est intitulé Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu revient en fait sur la genèse de cette saga extraordinaire d'Indiana Jones. Et alors, ce qui est d'abord fascinant, c'est de voir combien cette saga a été nourrie d'histoire cinématographique. Parce que George Lucas, qui a été le producteur finalement d'Indiana Jones, et Steven Spielberg, le grand réalisateur des quatre premiers épisodes de la saga, ont en commun d'avoir une culture cinématographique immense, notamment le cinéma des années 30, 40 et début des années 50. Et ce que tu t'aperçois, c'est que beaucoup de films ont nourri le Indiana Jones. Alors, je vais juste en mentionner quelques-uns, mais je trouve que ça vaut le coup. D'abord, tu t'aperçois que le look d'Indiana Jones, ce chapeau, ce blouson en cuir, c'est aussi ce machisme et cette arrogance, ça vient directement d'un film de 1954, Le Secret des Incas, interprété par où Charlton Heston joue déjà le rôle d'un archéologue. Ensuite, la barbe de trois jours et le cynisme, c'est Humphrey Bogart dans Le Trésor de la Sierra Madre en 1948 qui donne cette inspiration-là. La droiture, la connaissance du terrain, c'est Stewart Granger dans Les Mines du Roi Salomon en 1950. Et pour nous, Français, Cocorico, eh bien, le côté un peu cascade, gaffeur d'Indiana Jones, eh bien, ça vient de Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, un film de Philippe de Broca en 1964, dont Steven Spielberg était un fan absolu. Et puis, il y avait aussi un scénariste derrière tout cela, c'était Philippe Kaufman. Alors, Philippe Kaufman, qui sera le futur réalisateur de L'Étoffe des héros, et qui, lui, trouve l'idée d'avoir quelque chose d'un peu mystique, et notamment cette idée de la quête de l'Arche d'Alliance, donc ce coffre qui, selon la Bible, contient les tables de la loi, eh bien, ça vient directement du film Les Dix Commandements en 1956 de Cécil B. 2000. Donc, on le voit, un condensé de nostalgie cinéphile dans la saga Indiana Jones. Ensuite, ce qui est aussi passionnant, c'est de voir que, en fait, Indiana Jones va marquer une rupture dans le cinéma américain. Dans les années 70, on est dans un cinéma hollywoodien assez introspectif, assez intellectuel. Et puis, le début des années 80, bah, c'est l'impérialisme reaganien, c'est l'Amérique qui gagne, c'est la culture de la gagne quelque part, c'est cette Amérique triomphante, et finalement le message, c'est à l'Amérique, au cours des deux prochaines décennies, vous allez être les rois du monde. Et cette ère prendra fin tragiquement avec les attentats du 11 septembre 2001, mais ce qui va incarner cette Amérique triomphante, cet impérialisme, ça va être le cinéma entertainment, le cinéma popcorn, finalement, c'est-à-dire celui de Steven Spielberg. Et donc, 1981, le premier épisode de la saga Indiana Jones qui connaîtra des épisodes successifs, notamment en 1984-87, qui seront des succès absolument majeurs. Donc, on le voit, un tournant dans l'histoire du cinéma américain. Le documentaire est aussi passionnant parce qu'il nous révèle pas mal d'anecdotes. Une anecdote, c'est que Harrison Ford n'aurait pas dû être Indiana Jones au départ. George Lucas était déjà assez réticent à partager son Han Solo de la Guerre des Étoiles, et donc des essais avaient été menés. Et l'acteur qui avait été sélectionné, c'était Tom Selleck. Mais Tom Selleck, au dernier moment, dit « Ah, je suis désolé, je viens de signer pour une petite série qui s'appelle Magnum, et donc je ne vais pas pouvoir faire Indiana Jones. » Et donc, à ce moment-là, on rappelle Harrison Ford. Autre point assez amusant, c'est que George Lucas a énormément peiné à convaincre les studios de produire Indiana Jones. Parce que cette idée un petit peu nostalgique du cinéma des années 30, 40, 50 ne plaisait pas du tout aux différents studios. Et c'est finalement après un an à faire vraiment le siège des studios que la Paramount dit « Ok, on vous donne 20 millions de dollars pour le faire. » Mais 20 millions, en revanche, vous ne prenez pas Spielberg. Parce que Spielberg avait effectivement eu le succès des Dents de la Mer, mais Spielberg était aussi connu pour toujours exploser les budgets et faire des films beaucoup plus longs qu'il aurait dû. Et là, George Lucas s'est porté garant. Et donc, en fait, Indiana Jones, c'est aussi cette histoire d'une amitié extraordinaire entre George Lucas et Steven Spielberg. Je terminerai en disant que ce qui est aussi assez extraordinaire dans Indiana Jones, c'est que ça a aussi marqué l'entrée du cinéma dans l'ère un peu du merchandising, des jeux vidéo. Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est le premier film qui est transformé en jeu vidéo. On est complètement au début de l'ère des jeux vidéo, en 1980. Et donc, ça va être aussi, en parallèle du cinéma, une vraie franchise qui va naître, et une franchise qui apportera des milliards aux deux cinéastes. Voilà, ce documentaire est absolument extraordinaire, et évidemment, au moment où, au Festival de Cannes, le 18 mai, a été révélé le cinquième épisode, qui lui n'est pas réalisé par Steven Spielberg, mais James Mangold, Indiana Jones et le cadran de la destinée, ce documentaire vraiment arrive à point. Mon cher Romain, je crois que toi, tu voulais nous parler d'un livre consacré à Hitler et Churchill, et écrit par l'historien Andrew Roberts.
Oui, alors ça donne déjà très envie de voir le cinquième épisode, donc merci. Et effectivement, Churchill est un héros du réel, et ce livre est très intéressant pour ceux qui ont de l'admiration pour ce personnage. Andrew Roberts, c'est un historien britannique qui avait publié chez Perrin une excellente biographie de ce cher Winston Churchill il y a quelques années. Ce fut un énorme succès d'édition, y compris en France, pour Perrin. Et donc, Perrin a décidé, et c'est une très bonne idée, de traduire et de publier un livre beaucoup plus ancien de Roberts, qu'il avait écrit il y a une vingtaine d'années, et qui s'appelait originellement « Hitler and Churchill, Secrets of Leadership ». Car il s'agit bien là de la thématique principale du livre, l'observation des différences fondamentales de leadership entre deux personnalités que tout oppose. Alors, cela donne lieu à un exercice de biographie croisée que j'apprécie beaucoup et que je trouve souvent extrêmement efficace, qu'il s'agisse des vies parallèles de Plutarque ou de l'excellent Napoléon de Gaulle de Patrice Guénifet, dont nous avions beaucoup parlé avec lui dans un précédent épisode. Alors, pourquoi l'auteur a voulu écrire ce livre, même si c'était il y a quasiment 20 ans ? C'est parce que même il y a 20 ans, alors qu'on ne parlait pas encore de wokisme, de cancel culture ou de déboulonner des statues, il y a un certain relativisme qui commençait déjà à poindre dans certains milieux universitaires ou dans certaines franges politiques extrêmes. Ces relativistes puritains commençaient déjà à critiquer Churchill pour quelques phrases jugées malheureuses ici ou là, pour son rapport à la colonisation par exemple, et par là même, par un relativisme destructeur, à mettre presque un signe égal entre un Churchill et un Occident diabolisé, et un hitlérisme presque tombé en banalité, puisque tout est réduit au fascisme ou au nazisme par une partie de l'extrême gauche. Et à l'inverse, venant de l'extrême droite, pour une partie très révisionniste et réactionnaire de ce camp, ben Churchill aurait trahi l'Empire britannique, il aurait accéléré sa chute en concentrant toutes ses forces contre le nazisme, et donc une paix avec Hitler aurait été davantage dans l'intérêt du pays. Donc il y a quand même ce relativisme qui vient des deux camps, d'où cette très bonne idée de faire le point et de mettre ses destins en parallèle. Alors bien sûr, il y a quelques points communs entre Churchill et Hitler, il y en a très peu, mais au-delà bien sûr d'être deux figures majeures de la Deuxième Guerre mondiale, les deux ont connu un parcours très sinueux et chaotique avant d'arriver au pouvoir. Hitler fut longtemps considéré comme un minable, hein, jusqu'à 40 ans, avec ses putschs ratés, ses scores misérables aux élections. Il fait 2,6% aux élections de 28, il ne faut quand même pas l'oublier. Quant à Churchill, il a certes eu un parcours politique très jeune, de premier plan, il a été ministre très jeune, mais il va vite devenir persona non grata à cause notamment de la catastrophe, de la défaite, de la bataille des Dardanelles durant la Première Guerre mondiale. Il était quand même l'ordre de l'amirauté à ce moment-là. Il va avoir une deuxième chance en tant que chancelier de l'échiquier, mais là non plus, ça ne se passe pas très bien, c'est un échec politique. Et puis, il va connaître une très longue période de traversée du désert dans les années 30. Il sera considéré un peu comme un ringard, un va-t-en-guerre impérialiste, un électron libre peu fiable, vraiment considéré comme fini, et prêchait un peu dans le désert lorsqu'il critiquait l'hitlérisme et le nazisme. Et il écrivait, il voyageait, il rencontrait beaucoup de monde, il écrivait même dans des publications de mode, Churchill Cosmopolitan ou Pall Mall Gazette, mais il est considéré comme fini. Et petite anecdote que raconte le livre, Hitler et Churchill ne se sont jamais rencontrés. Mais ils auraient pu. Il y a eu une possibilité, c'était en 1932, Hitler était vraiment aux portes du pouvoir, et Churchill, qui était très curieux, voyageait beaucoup en Europe et en Allemagne en particulier. Ils avaient une relation commune qui voulait les faire rencontrer, mais c'est Hitler qui ne veut pas, parce qu'il ne veut pas perdre son temps à rencontrer Churchill, car il le pense fini, et Hitler dit « Quel est le poids de Churchill ? Personne n'écoute ce qu'il dit. » Bon, quand on connaît la suite de l'histoire, tout ça est assez marrant. Donc, traversée du désert commune, capacité à mobiliser les foules communes, mais de manière extrêmement différente, mais ça s'arrête un peu là. En fait, tout est différent dans leur manière de gouverner, de penser le monde, bien évidemment. Il n'y a absolument aucun rapport. Et la différence absolue de caractère entre ces deux hommes, par rapport à l'humour, par rapport à la nourriture, par rapport à l'alcool, par rapport à la manière de montrer ses émotions, par rapport à la manière de diriger, finalement, c'est ça aussi qui va expliquer notre victoire, la victoire de la liberté et de la démocratie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hitler, c'est un sociopathe égocentrique qui vit dans un délire paranoïaque, qui voit des complots partout, qui veut tout maîtriser, qui veut tout contrôler, qui méprise ses alliés potentiels comme ses ennemis qu'il ne cesse d'insulter. Et puis, il est finalement assez lâche puisqu'il ne signe que rarement ses ordres. Il utilise ses collaborateurs comme les fusibles. Il a une grande méfiance envers l'armée, préfère miser sur des hommes totalement soumis, de confiance, TSS normalement. Et à l'inverse, Churchill, il ne cesse de donner sa chance à des profils non conventionnels. Face à la situation désespérée, dès sa nomination au poste de Premier ministre, il dit d'ailleurs à son secrétaire d'État, Anthony Eden, il nous faut des battants, pas des profils conventionnels. Et donc, quand il crée son bureau, le Political Welfare Executive, chargé d'imaginer des opérations spéciales de sabotage comme de propagande, mais il va prendre des artistes, des journalistes, des fantaisistes, des hommes de spectacle. On imagine bien sûr pas Hitler faire ça. Hitler, c'est le délire égocentrique de confiance en soi, qui tuait l'esprit d'initiative individuelle autour de lui, divisé pour mieux régner, mais ça tue toute réactivité dans la chaîne de commandement. Cela s'est vu dans ses tergiversations, notamment à Dunkerque, et qui méprise bien sûr tous ses rapports avec les alliés, que ce soit les Japonais ou les Italiens. Et à l'inverse, Churchill, c'est celui qui ne cesse de croire dans le caractère imprévisible du génie comme du mal humain, qui va se mettre dans la tête de son ennemi, qui va mobiliser le pays sur des valeurs de courage et qui va montrer l'exemple en assumant toutes ses prises de position et toutes ses idées, qu'elles soient farfelues, efficaces ou alors qu'elles tombent à plat. Donc, il y a un dirigeant qui mène son pays à la ruine et un immense chef de guerre. Et c'est un livre très intéressant aussi pour conclure nos discussions sur le libéralisme et l'illibéralisme. C'est parce que ça prouve encore une fois, à mon sens, que la démocratie, avec tous ses biais, toutes ses inconnues, et Churchill est un profil tellement excentrique qui porte beaucoup d'inconnues en lui, et bien sur le long terme, c'est toujours beaucoup plus efficace que l'autoritarisme.
Merci beaucoup Romain. C'était passionnant comme coup de cœur. Ça me donne beaucoup envie de le lire. Et donc, merci d'avoir partagé avec nous ce coup de cœur. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Romain.
Merci Jérémy. À la semaine prochaine.